Le banquet de Noël, Nathaniel Hawthorn. Partie 2 sur 2. Les mois et les heures s'écoulèrent et ramenèrent les gaietés de Noël, accompagnées des cérémonies de l'église, des jeux, des festins et de la joie sur tous les visages. La salle du banquet se revêtit encore de ses noires draperies. On l'éclaira avec les torchères funèbres et on décora la table d'une façon toute sépulcrale. Le squelette, recouvert de son manteau, reprit sa place désignée, tenant entre ses doigts la couronne de cyprès, présent destiné au convive le plus affligé. Comme les ordonnateurs de la fête étaient certains que l'on trouverait toujours sur la terre de nouvelles misères, et comme ils désiraient jouir de ce spectacle sous toutes les formes, ils ne crurent pas convenable de réunir les convives de l'année précédente. De nouvelles figures vinrent donc se placer autour de la table. Là se trouvait un homme à la conscience timorée, qui portait une tache de sang dans son cœur. Souvenir de la mort de l'un de ses semblables. Mort qui, pour sa plus grande torture, avait été suivi de circonstances si extraordinaires que le malheureux pensait que ses souffrances venaient des vœux qu'il avait formés pour que la mort le visitât lui-même à son tour. En effet, depuis l'époque de ce meurtre, l'existence de cet homme était empoisonnée. Il vivait dans une perpétuelle agonie, s'accusant intérieurement d'avoir tué son semblable. Sans cesse, il avait présent à la mémoire tous les détails de cette horrible catastrophe. C'était là sa seule pensée. À côté de cet homme, il y avait une mère, autrefois heureuse et maintenant désolée. Il s'était cependant écoulé un grand nombre d'années depuis le jour où elle était allée à une partie de plaisir et avait trouvé à son retour son petit enfant étouffé dans son berceau. Toujours, depuis cet instant funeste, la malheureuse était persécutée par cette pensée terrible que son enfant étouffait dans son cercueil. Cette malheureuse avait pour voisine, au banquet de Noël, une vieille dame qui, depuis son adolescence, avait été atteinte d'un tremblement convulsif qui ébranlait toute sa personne. Rien n'était plus effrayant que l'aspect de son ombre vacillante sur la muraille. Ses lèvres tremblaient et l'expression de ses yeux semblait annoncer que son âme aussi était agitée. Cet état provenait de la confusion qui existait dans son intelligence. Personne ne pouvait dire quel terrible chagrin avait frappé l'infortuné d'une manière aussi cruelle. Les exécuteurs testamentaires avaient pourtant jugé qu'il devait l'admettre au nombre des convives, non d'après ce qu'il connaissait de son histoire, mais sur la seule inspection de son triste visage. Les convives ne purent réprimer un mouvement de surprise lorsqu'ils virent paraître un certain Monsieur Smith, gentleman à la face rubiconde qui avait probablement reçu plus d'une invitation bien préférable à celle qui le conviait à cette fête. L'expression ordinaire de la physionomie de ce personnage annonçait que, pour la cause la plus futile, il était disposé à rire. Monsieur Smith évitait cependant tout ce qui pouvait exciter sa gaieté, car il était atteint d'une maladie de cœur qui à chaque instant menaçait de mettre fin à ses jours. Toute émotion de joie pouvait lui être fatale, et l'animation produite par de riantes pensées aurait pu occasionner la même fin terrible. Eu égard à sa triste situation, Monsieur Smith s'était fait admettre au banquet dans l'espoir d'y puiser un fond de mélancolie qui prolongerait ses jours. On avait aussi invité deux époux, par cette seule raison, bien connue de tous, qu'ils étaient affreusement malheureux dès qu'ils se trouvaient réunis. Il allait donc sans dire qu'ils devaient se rencontrer à ce festin. Pour faire pendant à ces deux malheureux, on apercevait autour de cette table deux autres individus qui n'avaient jamais été mariés. Dans leur première jeunesse, ils s'étaient promis de s'adorer toujours. Mais, séparés par les circonstances, ils étaient demeurés si longtemps loin de l'autre que maintenant, ils ne pouvaient plus sympathiser. Isolés dans la vie, ces deux êtres considéraient l'éternité comme un désert sans bornes. Près du squelette était assis un des plus joyeux fils de la terre, un spéculateur, un chercheur d'or. Sa principale affaire étant son grand livre. La bourse lui servait de prison. Ce personnage avait été fort surpris en recevant cette invitation, car il se figurait être le plus fortuné des mortels. Ceux qui l'avaient convié au festin déclaraient qu'ils ne savaient pas combien grande était sa misère. Un instant après, on vit entrer dans la salle un individu avec lequel nos lecteurs ont déjà fait connaissance. C'était Gervaise Hastings, dont la présence, l'année précédente, avait soulevé tant de questions et causé de nombreuses critiques. Hastings s'assit encore à la même place, avec l'intime conviction qu'elle lui appartenait et qu'il n'avait nullement besoin de l'assentiment d'autrui. Et pourtant, chose étonnante, son air enjoué, sa physionomie placide, ne trahissait aucun chagrin. Ceux qui l'examinaient et qui étaient experts dans l'art de découvrir les peines de leurs semblables regardèrent un instant Gervaise Hastings et, tout en branlant la tête, n'éprouvèrent pour lui aucune sympathie. « Qui est donc ce jeune homme ?» demanda l'homme à la conscience troublée. « Assurément, il n'a jamais souffert. De quel droit vient-il s'asseoir parmi nous ?»«
Savez-vous que c'est très mal d'entrer ici sans être frappé d'un chagrin mortel ?»
murmura la vieille dame d'une voix aussi tremblante que l'était toute sa personne.
« Quittez-nous, jeune homme. Votre cœur n'a jamais été brisé et je tremble plus encore pour mon repos, rien qu'à vous regarder. »
« Son cœur brisé ? Oh non, j'en réponds !» répliqua Monsieur Smith en portant la main sur sa poitrine et en s'efforçant de paraître triste, car il craignait de se livrer à un fatal éclat de rire. « Je connais fort bien ce gentleman. Il a devant lui les plus belles espérances. Aussi ne doit-il pas se mêler à nous. Il n'a pas plus le droit de s'asseoir à cette table que l'enfant qui n'est pas encore né. » « Il ne fut jamais malheureux et probablement ne le sera jamais. »«
Très honoré convive !» s'écrièrent alors les ordonnateurs du banquet. « Allons, de grâce, ayez confiance en nous et soyez certains du moins que notre profonde vénération pour la mémoire de celui qui a institué ce festin ne nous permet pas de désobéir à ses dernières volontés. Recevez ce jeune homme à votre table, qu'il nous suffise de vous assurer qu'aucun de vous ne voudrait troquer son cœur pour celui qui bat dans la poitrine de Gervaise Hastings.
« Si cela était, j'en serais enchanté, très enchanté !» répliqua Monsieur Smith avec un mélange de joie et de tristesse. « Mais ces messieurs ne savent pas ce qu'ils disent. Mon cœur est le seul qui souffre réellement ici, puisque certainement il sera cause de ma mort. »
Malgré toutes ces récriminations, comme le jugement des exécuteurs testamentaires était sans appel, la compagnie prit place autour de la table. Le convive, qu'on aurait volontiers expulsé, n'entama la conversation avec aucun de ses voisins. Il paraissait seulement écouter avec une grande attention dans l'espoir de découvrir quelque vérité. À dire vrai, les plaintes exprimées par ces infortunés ne pouvaient point être le sujet d'une instruction ou d'une consolation, quelles qu'elles fussent, pour personne. La conversation générale parut si absurde au bon Monsieur Smith qu'il ne put s'empêcher d'éclater de rire, quoique ses médecins lui eussent expressément défendu cette incartade. Et certes, la science avait raison cette fois, car le malheureux tomba en arrière en faisant une affreuse grimace et expira sur le champ. Cette catastrophe mit fin au repas.
« Quoi ? Vous ne tremblez pas ?»
demanda la vieille dame à Gervaise Hastings, qui regardait fixement le cadavre.
« N'est-ce pas un horrible spectacle à voir ? Et n'est-il pas terrible de penser qu'un homme d'une nature si ardente et si robuste est mort en une minute ? Mon âme tremblera toujours, mais en ce moment, elle tremble bien plus encore. Aussi, je ne puis comprendre comment vous êtes calme. »
En quoi cet événement subi peut-il m'apprendre quelque chose, madame, ou me faire éprouver la moindre émotion ? Répondit Gervaise Hastings en poussant un profond soupir. Les hommes passent devant moi comme les ombres sur une muraille. Leurs actions, leurs passions, leurs sentiments produisent à mes yeux l'effet d'une lumière vacillante. Dans une seconde, tout s'évanouit. Ni ce cadavre, ni ce squelette, ni le tremblement continuel de cette vieille dame ne peuvent me procurer la sensation que je cherche. Les convives se séparèrent. Nous n'entrerons pas dans des détails plus circonciés sur ces singuliers festins, lesquels, selon la volonté du fondateur, eurent lieu régulièrement à l'époque désignée. Quelques années plus tard, les exécuteurs de ces bizarres volontés adoptèrent la coutume d'inviter de loin et de près des individus dont les infortunes semblaient plus grandes que celles de leurs semblables, soit à cause de leur intelligence cultivée, soit eu égard à la haute position qu'ils avaient occupée. Le noble, exilé par la Révolution française, et le soldat qui avait déposé les armes à la chute de l'Empire vinrent prendre part à ce banquet. Les monarques détrônés, errants sur la terre, furent admis à ce triste et lugubre festin. L'homme d'État, dont le parti était vaincu, pouvait, s'il le désirait, être encore un grand homme pendant tout le temps que durait le repas. Le nom d'Aaron Burns prit place parmi tous ces représentants des misères humaines, quand sa ruine, la plus grande et la plus frappante, causée par des circonstances morales plus étonnantes que celles de la vie de tout autre homme, fut entièrement accomplie. À l'époque de sa vieillesse, Stephen Girard, lorsque son opulence lui parut un fardeau trop lourd à porter, chercha une fois à être admis au banquet de Noël. Et cependant, ces personnages ne pouvaient point donner mieux que d'autres ces enseignements extraordinaires de misère et de chagrin qui sont étudiés surtout dans la vie ordinaire. Mais il est bon de remarquer que plus les malheureux sont illustres, plus ils éveillent de profondes sympathies, et cela non parce que leurs malheurs sont plus terribles, mais parce que, étant placés sur un piédestal élevé, ceux qui les éprouvent servent bien mieux d'exemple au genre humain. J'ajouterai qu'à chaque banquet de Noël, Gervaise Hastings se mêlait aux convives, mais l'infortuné changeait graduellement. De la brillante jeunesse, il était passé à la virilité soucieuse, puis de la virilité à la vieillesse, qui avait imprimé un certain air de dignité à sa physionomie. Il était le seul individu qui vint aussi assidûment chaque année, et cependant sa présence excitait toujours de nouveaux murmures de la part de ceux qui connaissaient son caractère et sa position. Ceux-là même dont le cœur était brisé ne pouvait fraterniser avec lui. Qui est donc cet homme impassible ? S'était-on demandé plus de 100 fois. A-t-il souffert? A-t-il commis quelque faute? Sa personne ne porte ni trace de douleur, ni de remords. Alors pourquoi se trouve-t-il ici? Demandez-le à ceux qui sont chargés de faire les invitations, ou interrogez-le lui-même.
Telle était la réponse générale.
Mais cet homme est bien connu dans la ville et tout ce qu'on dit de lui prouve qu'il doit être heureux. D'où vient qu'il arrive ici tous les ans pour se placer au milieu des convives comme une vraie statue de marbre?
Demandez-le au squelette. Peut-être vous donnera-t-il le mot de l'énigme.
En vérité, c'est extraordinaire,
se disait-on à la ronde.
L'existence de Gervaise était non seulement prospère, mais encore fort brillante. Tout lui avait réussi. Sa fortune aurait suffi pour satisfaire les goûts les plus dispendieux. Il aurait pu voyager dans les contrées les plus éloignées. S'il avait eu l'amour de la science, il aurait pu se former dans une nombreuse bibliothèque. Hélas, malgré toute son opulence, cet homme était malheureux. Il avait désiré jouir du bonheur domestique et aurait dû le trouver avec une épouse charmante et affectionnée, des enfants qui promettaient la réalisation des plus douces espérances. Hastings s'était élevé au-dessus des limites qui séparent les hommes obscurs des hommes distingués et il s'était acquis une réputation sans tache dans des affaires de la plus haute importance. Sa renommée n'était pourtant pas populaire, car il lui manquait ce qui est nécessaire pour acquérir l'affection des masses. Pour le public, Hastings était une froide abstraction, dépourvue d'enthousiasme et de la faculté de faire passer dans le cœur de la multitude les impulsions du sien. C'est surtout à ce don divin que le peuple reconnaît ses favoris. J'ajouterais que ceux qui étaient admis dans l'intimité de cet infortuné et qui désiraient l'aimer étaient effrayés de voir que cela leur était impossible. Ils l'approuvaient et l'admiraient, mais dans ces moments où l'esprit humain cherche à découvrir la réalité, ils s'éloignaient de Gervaise qui n'avait pas le pouvoir de leur donner ce qu'ils voulaient trouver et ils éprouvaient ce sentiment de regret que l'on ressent lorsqu'on retire sa main après l'avoir tendu à une ombre que l'on a aperçue sur la muraille. La jeunesse d'Hastings, tout à coup disparue, et l'effet qu'il produisait, devinrent bientôt plus perceptibles. Ses enfants, lorsqu'il leur tendait les bras, venaient, sans la moindre joie, s'asseoir sur ses genoux. Bien plus, il n'y prenait jamais place sans y être invité. Sa femme pleurait en secret et s'accusait intérieurement de rester insensible auprès de lui. Hastings lui-même paraissait ressentir les effets de cette froideur qu'il répandait sur tous ceux qui l'entouraient. Il aurait donné tout au monde pour pouvoir se réchauffer. La vieillesse qui l'accabla avant l'âge l'engourdit bientôt plus encore. Un jour, il perdit sa femme et quelques-uns de ses enfants. Puis ensuite, les autres le quittèrent et le vieux Gervaise Hastings resta seul. Il ne désirait plus d'entourage. C'est ainsi qu'il continua à vivre et à chaque fête de Noël, il ne manquait pas de se rendre au lugubre banquet. Son privilège était devenu un droit et s'il avait réclamé la place d'honneur, le squelette la lui aurait cédée. Lorsqu'Hastings eut atteint ses 80 ans, cet homme, au visage pâle, au front chauve, à la physionomie immobile, voulut venir encore une fois s'installer à la place du banquet de Noël, où il était admis tous les ans. Sa physionomie était toujours aussi impassible. Le temps l'avait changé à l'extérieur, mais intérieurement, il ne lui avait fait ni bien, ni mal. Avant de s'asseoir dans le fauteuil qui lui était destiné, Hastings jeta un regard inquisiteur autour de la table, dans le but de s'assurer qu'il n'y retrouverait pas quelques-uns des convives des années précédentes. Le malheureux n'avait rien appris à ces tristes fêtes. Il ignorait encore ce profond secret, la vie dans la vie, qui se manifeste par la joie ou par le chagrin. « Mes amis, » fit tout à coup Gervaise Hastings, en prenant cet air d'assurance seul permis à un convive de fondation. « Soyez les bienvenus. Je bois tous vos vœux dans cette coupe sépulcrale. » Les invités répondirent avec urbanité, mais d'une manière qui prouvait qu'ils ne sympathisaient pas avec ce personnage d'un aspect glacial, car tous semblaient dire qu'ils refusaient de le reconnaître pour un de leurs frères. Donnons avant tout à nos lecteurs une description succincte de ceux qui assistaient au banquet. Là se trouvait un ministre protestant très enthousiaste, appartenant probablement à la famille de ces anciens puritains qui avaient foi en leur vocation et se comptaient au nombre des puissants de la terre. Cédant aux tendances de l'époque, ce ministre s'était éloigné des principes sévères de la foi primitive. Son esprit errait dans d'obscures régions où il ne trouvait que ténèbres et déceptions. Ses idées étaient tellement confuses que bien souvent il se tordait les mains avec désespoir, tandis qu'en d'autres circonstances, il riait de sa propre folie. Cet homme était vraiment misérable. Près de lui était assis un utopiste. Sa secte était nombreuse, quoiqu'il se crût le seul de son espèce depuis la création du monde. Cet individu avait formé le projet de faire disparaître de la surface du globe toutes les douleurs physiques et morales, et d'assurer le bonheur de chacun. Mais l'incrédulité des hommes l'empêchait d'accomplir ses projets. Son chagrin était tellement profond que tous les maux auxquels il ne pouvait remédier semblaient s'être appesantis sur lui. Un vieillard, d'un aspect fort simple, couvert de vêtements noirs, attirait ensuite l'attention des personnes présentes. On le prenait pour le père Miller, qui paraissait s'abandonner au désespoir en attendant le moment fatal qui devait tout anéantir. Là se trouvait encore un homme connu pour son orgueil et son obstination. Il avait possédé de grandes richesses. Il s'était vu à la tête d'une grande administration où il avait pu régir, despotiquement, ses subordonnés qui tremblaient en sa présence. Mais quand survint une ruine totale, tout son pouvoir avait disparu. On remarquait aussi un philanthrope qui s'affligeait tellement de tous les malheurs des humains et de la négligence que l'on mettait à prendre des mesures générales pour les soulager, qu'il n'avait pas le courage de faire le peu de bien dont il était capable. Ce personnage se contentait d'être malheureux par sympathie. Près de lui était assis un individu dont l'espèce ne date que de l'époque actuelle. Depuis qu'il avait atteint l'âge où on lit les journaux, il s'était vanté d'appartenir à un parti politique. Pendant les discussions de ces dernières années, son esprit s'était tellement troublé qu'il ne savait plus à quel parti s'attacher. Le chagrin qu'éprouvait cet homme ne peut être compris que par ceux qui l'ont éprouvé. À son côté, on avait placé un orateur populaire qui avait perdu la voix, et comme c'était là à peu près tout ce qu'il possédait, il était tombé dans un état de mélancolie désespérée. À la table du banquet se trouvaient aussi deux dames. L'une était une pauvre ouvrière, presque morte de faim, malade de la poitrine. Elle représentait là 1 million de femmes de sa condition, tout aussi misérable qu'elle. L'autre personne était une femme douée d'une mâle énergie dont elle ne pouvait faire usage. Elle ne trouvait dans le monde rien à faire et rien qui lui procurât ou du plaisir ou du chagrin. Cette pauvre infortunée était devenue presque folle en voyant que son sexe était exclu des grandes affaires. Comme le nombre des convives était complet, on avait ajouté une petite table pour 3 ou 4 pauvres chercheurs d'emploi que les ordonnateurs du festin avaient cru pouvoir admettre. Ces pauvres diables étaient dans une si grande détresse qu'ils avaient réellement besoin d'un bon repas. Tous ceux qui assistaient à ce banquet étaient vraiment dignes de compassion. Le vieux Gervaise les intéressait peu. Il aurait pu disparaître sans qu'aucun des convives demandât « Où est-il allé ?»«
Monsieur, » dit enfin le philanthrope Hastings, « voici bien des années que vous prenez part à cette fête, et probablement vous avez tiré de la vue de tous ces convives du malheur de très utiles enseignements. J'envie votre sort. Pouvez-vous me révéler un secret pour remédier à la masse des misères qui affligent le monde ?»«
Je ne connais qu'une seule misère, » répondit Gervaise d'un air tranquille. « Et c'est la mienne. »«
La vôtre ?» répliqua le philanthrope. « Si vous vous rappelez l'existence heureuse et brillante que vous avez menée toute votre vie, comment osez-vous dire que vous êtes le seul infortuné de l'espèce humaine ?»«
Je vous le dirais que vous ne le comprendriez pas. »
répliqua Gervaise Hastings, d'une voix faible, avec une prononciation embarrassée, en employant quelquefois un mot pour un autre. Personne ne m'a compris, pas même ceux qui étaient atteints du même mal. Ce que j'éprouve est l'absence de toute espèce de passion. Il me semble que mon cœur est formé de vapeur. Il m'est impossible de saisir la réalité. Ainsi, en ayant l'air de posséder tout ce qui est au pouvoir des hommes, tout ce qu'ils désirent, je n'ai réellement rien possédé, ni joie, ni chagrin. Toute chose, toute personne, et j'ai la preuve de ce que j'avance à cette table même depuis que je viens m'y asseoir, m'ont fait l'effet d'ombres vacillant sur la muraille. Ma femme, mes enfants et mes amis ont produit sur moi la même sensation. Il en est de même de vous que je vois devant moi. Je n'ai réellement pas connu l'existence et je ne suis moi-même qu'une ombre, comme ceux qui m'entourent.
Et que pensez-vous de l'autre vie ? Demanda Hastings, le ministre, en levant les yeux au ciel.
Hélas, je suis plus malheureux que vous, répliqua le vieillard, car je n'ai pas la faculté nécessaire pour craindre. Ou pour espérer. Mon malheur est le seul au monde, ma souffrance est la seule qui ne guérit pas, ce cœur froid, cette existence en réalité. Ah, c'est une vraie montagne de glace qui pèse sur ma poitrine.
Le hasard fit qu'à la fin de cette conversation, les ligaments usés du squelette se détachèrent, et tout à coup, ses os desséchés et la couronne de cyprès tombèrent sur la table. Cet incident attira l'attention des convives et fut cause que l'on perdit Hastings de vue pendant quelques instants. Lorsque les membres du banquet reportèrent leurs regards sur le vieillard, ils s'aperçurent qu'il avait subi une transformation complète. Son ombre avait cessé de vaciller sur la muraille.
Et maintenant, Rosine, que pensez-vous de ce récit ? Demanda Rodrigue en roulant le manuscrit qu'il venait de lire.
Franchement, je vous répondrai que votre apologue n'est pas entièrement complet, répliqua-t-elle. Je comprends bien le caractère que vous avez cherché à dépeindre, mais si je le comprends, c'est plutôt à force d'y penser que grâce à la clarté de ce que vous venez de raconter.
Oh, ce que vous éprouvez était inévitable, observa le sculpteur. Comme les caractères sont tous négatifs, si Gervaise Hastings avait éprouvé le moindre chagrin au banquet de Noël, il eût été bien plus facile de définir son caractère. Il existe dans le monde des personnages pareils à cet homme, et de temps en temps, nous rencontrons ces monstres dans le sens moral. Il est difficile de comprendre comment ces êtres existent ici-bas, et nul ne peut expliquer quelle sera leur existence dans un autre monde. On dirait qu'ils sont étrangers à toute chose,
et rien ne fatigue plus l'esprit que de chercher à comprendre quelle est leur destinée.